Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, nous parlons d'un livre, un sacré livre, intitulé « Paysages entre nature et histoire », écrit par Pierre Vatt et qui a reçu un des prix les plus importants de l'histoire de l'art moderne en France, le prix qui a le nom de l'historien et résistant, ami de Picasso, Pierre Dex, le prix Pierre Dex. C'est un livre étrange. Certes, il est beau, comme ils le sont parfois en ces périodes de fête, mais c'est d'abord un livre, c'est-à-dire un texte. Érudit, c'est la moindre des choses, très personnel, ce qui n'est pas courant en histoire de l'art, et qui nous apporte une lecture très nouvelle de l'histoire du paysage en peinture et en photographie au 19e et 20e siècle. C'est une pérégrination parmi des chefs-d'œuvre, mais surtout un point de vue nouveau qui surgit sous les mousses du temps en Italie, sous les végétations luxuriantes en Afrique, dans les ondulations des vallons en Allemagne. Pierre Vatt, l'auteur, a une expression que je vous restitue. Dans ces paysages, l'histoire est un présent qui vous saute à la gorge. Ce sont ces aventures de l'homme que nous suivons dans ces natures dont il paraît être absent. Un homme qui marche dans un paysage pudique, qui nous restitue presque sans trace les trames et les drames de l'histoire contemporaine. Peut-être que un poème de Carl Sandburg, dans un passage intitulé « Shenandoah », nous éclairerait sur sa signification.
Entassez les corps à Austerlitz et à Waterloo, enterrez-les à la pelle et laissez-moi travailler, je suis l'herbe, je recouvre tout, et entassez-les à Gettysburg, et entassez-les à Ypres et à Verdun, enterrez-les à la pelle et laissez-moi travailler 2 ans, 10 ans, et les passagers demandent au conducteur, quel est ce lieu? Où sommes-nous maintenant? Je suis l'herbe. Laissez-moi travailler.
Bonjour Pierre Vatt, comment allez-vous ?
Mais magnifiquement.
Bon, donc là nous venons d'entendre un texte, j'ai choisi de le proposer en introduction parce que on n'imagine pas tout de suite un historien d'art donner autant d'importance à la poésie. Il y a beaucoup de relations à la poésie, parfois des poètes peu connus en France, parfois des poètes de votre famille. Et je trouvais que ce texte nous donne tout de suite le sens de cette lecture du paysage, cette herbe qui travaille à effacer les traces de l'histoire. Et vous qui êtes historien d'art, professeur à Paris 1, vous avez travaillé sur Turner, vous avez fait un livre il y a presque une dizaine d'années maintenant, qui avait un très beau titre d'ailleurs. Qu'est-ce que c'était ?
Turner, menteur magnifique.
On va y revenir sur Turner parce que ça il fait partie de votre livre et je dois dire que ce livre m'a incroyablement apporté parce qu'il a changé mon regard sur beaucoup de tableaux que je pensais familiers et que je voyais de façon totalement incomplète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Comment est-ce qu'on va commencer notre conversation ?
Comme vous avez eu la gentillesse de choisir ce poème pour ouvrir notre discussion, on pourrait repartir de lui. Ce poème est présent parce que c'est un texte que j'ai découvert un peu par hasard sur le conseil de quelqu'un et qui m'a permis justement de mettre des mots, de comprendre ce que je voulais dire. Ce poème s'appelle « Grass », l'herbe, et c'est une personnification. C'est l'herbe qui parle, comme si c'était le paysage qui parlait, qui était le personnage principal, et qui dit cette chose terrible, hein. « Je suis l'herbe, je recouvre tout, laissez-moi travailler ». Et c'est absolument magnifique, c'est exactement le sujet de mon livre. C'est-à-dire que c'est un livre sur le paysage, mais en l'occurrence, c'est plutôt un livre sur ce rapport qu'entretiennent paysage et histoire. Dans la tradition de l'histoire de l'art, dans l'ancienne hiérarchie des genres, on a tendance à les séparer, on a tendance à les éloigner. Le grand genre, ce qu'on appelait autrefois le genre noble, c'était la peinture d'histoire à sujet biblique, mythologique ou historique. Et la peinture de paysage, elle, était considérée comme plutôt un genre bas, un genre moins noble, un genre moins intéressant. Moi, je me passionne pour la question du paysage depuis très longtemps, à partir de mon intérêt pour le romantisme, mais jusqu'à des questions contemporaines. Et j'ai essayé de tirer ce fil, ça aurait pu s'appeler sous le paysage d'histoire, si vous voulez. J'ai essayé de tirer ce fil et c'est comme ça que j'ai rencontré ce genre de choses. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est suivre ce fil. Vous avez parlé de la question des traces, c'est suivre des traces. Je reprends une expression très belle de Carlo Ginzburg qui dit que l'historien doit être un chasseur de traces, que le premier geste finalement de l'être humain, c'est celui qui se penche pour essayer de décrypter une trace. Et qu'est-ce qu'il trouve avec la trace? Il trouve quelque chose comme l'empreinte de l'homme, quelque chose comme le passage de quelqu'un, quelque chose comme finalement l'empreinte de lui-même dans le paysage. Ce que j'essaye de définir comme paysage, c'est cette intrication.
Dans la pérégrination vous nous faites faire comme ça d'un tableau à l'autre, il y a des figures qui apparaissent plus que d'autres. Je pense à Friedrich, je pense à Valenciennes, qui est un artiste qu'on a moins l'habitude de regarder avec profondeur. Hein. Souvent, c'est un artiste qu'on regarde comme un très bon paysagiste dans l'esprit italien. Et là, tout d'un coup, vous lui donnez une épaisseur et puis des artistes immenses, mais qui là aussi frôlait l'insignifiance, nous semblait-il. Je pense au grand ciel de Constable, qui ont tellement influencé Delacroix, qui ont tellement d'importance comme ça dans notre histoire. Mais ça commence, le livre commence avec une figure romantique, ça m'étonne pas de vous, un personnage debout sur une montagne. Et au fond, pourquoi commencer par le romantisme, qui avait une interrogation très très matériel sur le paysage. Quand je dis matériel, c'était au sens de non pas seulement de l'archéologie du paysage, mais même de sa structure chimique, de sa structure géologique.
C'était très important pour moi, et c'est là encore une chose que j'ai trouvé en chemin, d'une certaine manière, que de démarrer par ce tableau célébrissime de Caspar David Friedrich, que l'on appelle en français le voyageur au-dessus de la mer de nuages.
Vous avez gardé le mot Wanderer.
Et j'ai gardé le mot allemand, ouais. Qui n'est pas voyageur, qui est Wanderer. Au début, je croyais que je travaillais sur le paysage. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une sorte de chaînon manquant dans mon affaire. C'est que, en travaillant sur le rapport paysage et histoire, je travaillais sur une notion qui est totalement indissociable de la période contemporaine. C'est la question de l'individu. Mon sujet, il est incompréhensible si on ne comprend pas, si on ne sait pas qu'à la fin de la période moderne émerge cette notion tout à fait nouvelle, pas du tout présente auparavant, qui est la notion d'individualité. Dans le fond, mon livre, ce sont les pérégrinations, les aventures, les tribulations, les déambulations, les errements, éventuellement, de l'individu dans le monde. Ce que je raconte, c'est notre rapport au monde à travers cette figure. Donc la figure du Wanderer, Wanderer en allemand, hein, ça veut dire à la fois, finalement c'est la déambulation sans but, c'est la marche quand on ne sait pas jusqu'où on va aller. Et donc j'ai vraiment voulu ouvrir mon ouvrage par cet errant qui fonctionne comme un emblème, et qui est aussi une manière de dire, c'est l'homme que je promène dans le paysage et dans mon livre. Alors, c'est une manière de dire... il va être là jusqu'au bout de l'ouvrage, même quand on ne le voit pas.
Peut-être on va écouter quelques lignes que vous avez écrites, si vous le voulez bien, sur cet homme qui se tient debout.
Un homme se tient debout au sommet d'une montagne. Il est de dos et ses habits, redingotes noires, chemise blanche, sont ceux d'un citadin qui vient ici en étranger. Sa canne qu'il tient dans la main droite, tel un attribut, désigne le marcheur. Elle dit aussi, par la façon dont cet homme semble s'y adosser, l'instabilité de sa posture. Ici règne l'instabilité. Ce sommet sur lequel le voyageur se tient, auquel viennent faire écho d'autres sommets dans le lointain, n'est qu'un amas de pierres obliques qui ne procure jamais le repos d'une quelconque horizontalité. Rude piédestal qu'un sommet, obligeant le voyageur à conquérir son équilibre entre jambes d'appui, jambes libres et canne de marche. Conquête précaire, car ce que cet homme ne trouve pas sous ses pieds, ses yeux ne le lui procurent guère plus. Aucune ligne d'horizon dans ce paysage ne vient offrir à celui qui le regarde un repère, lui permettant de se situer. Nul axe ne laisse le marcheur prendre la mesure de sa verticalité d'homme. Nulle limite ne vient lui offrir la sensation de manifester quelque maîtrise dans son rapport au monde. Les rochers sont escarpés, les nuages courent suivant les vents obliques. Ils forment une mer sans fin, agitée et profonde, d'où surgissent, telles des forces cachées venant d'un en dessous, des roches noires qui ne recèlent nul abri. Une mer n'est pas un sol, le voyageur est à l'arrêt. Faire un pas de plus, c'est prendre le risque de la chute, éprouver par l'expérience la dangerosité du monde. Le tableau est de Caspar David Friedrich. Il s'intitule Wanderer au-dessus de la mer de nuages, 1818.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et vous venez d'entendre un extrait du très beau livre de Pierre Vatt qui vient de sortir et d'être couronné par le prix Pierre Dex chez Azan et qui s'appelle Paysages entre nature et histoire. Pierre Vatt, merci d'être avec nous. Je voulais vous interroger sur cette question de l'instabilité. On a l'impression que l'homme vacille à ce moment-là du romantisme dans le paysage et surtout, on ne voit pas exactement ce qu'il voit ou ce qu'il cherche à voir.
C'est toute la question. J'ouvre le livre là-dessus parce que l'intuition que j'essaie de développer, c'est qu'à la période contemporaine, la conscience que nous commençons à développer du paysage change en relation avec un certain nombre de sciences humaines et sociales et techniques. Si vous voulez, au XVIIIe siècle, la géologie commence à prendre corps. Au XIXe siècle, l'archéologie se développe, d'ailleurs sur les bases, en grande partie de la géologie. Et tout à coup, ça change tout. C'est-à-dire que comme le Wanderer, c'est une figure d'un homme qui marche, tout à coup, marcher dans la nature, ça n'est pas simplement marcher vers quelque chose horizontalement, c'est aussi la conscience que l'on marche sur quelque chose verticalement, qu'il y a le sol, mais qu'il y a aussi ce sous-sol, et que ce sous-sol cache quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire. Alors effectivement, il y a de quoi avoir une marche plus inquiète.
Ouais.
Hein, j'utilise ce beau mot qui vient de l'allemand, enfin que je traduis de l'allemand, l'idée du souci, un Sorgen en allemand. Il y a quelque chose comme un souci, précisément chez Friedrich, qui est aussi le souci du monde et le souci de la conscience de l'histoire.
Alors souvent, quand vous parlez de Friedrich, vous insistez sur le fait que les figures qui regardent cachent ce qu'elles regardent. Mmh. Il y a une... je ne sais pas d'ailleurs très bien ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez Munch beaucoup plus tard. Hein, figure de dos comme ça. Et on a l'impression qu'on est dans une image mentale plutôt que dans une image visuelle.
C'est toute la tragédie du romantisme qui est une utopie. Le romantisme, c'est une tentative de restaurer l'unité perdue. C'est une tentative de nous faire revenir, dans le fond, au jardin d'Éden. Et Friedrich va multiplier dans ses œuvres des figures de dos, ce qu'on appelle les Rückenfiguren en allemand. Elles sont extrêmement nombreuses et elles montrent le paradoxe et la limite de son travail. Une figure de dos dans le paysage, c'est un spectateur dans le paysage. C'est une sorte de relais de nous-mêmes, de projection de nous-mêmes dans le paysage. C'est bien. Sauf que nous, quand nous regardons le tableau, nous voyons une figure de dos dans un paysage. Et donc cette figure, peut-être que nous nous identifions, mais en même temps, elle fait partiellement écran. On peut peindre tous les tableaux du monde pour nous ramener au paradis, ça ne nous ramène jamais qu'au tableau, à une forme d'écran sur lequel, comme dirait Matisse, on finit par se casser le nez. C'est tout le problème du romantisme.
Et alors, il y a un personnage qui, au XXe siècle, va faire ses paysages. On le verra vertical, faire des saluts inquiétants. C'est un très grand artiste du XXe siècle. Il s'appelle Anselm Kiefer. Il apparaît à plusieurs reprises dans votre livre parce que le rapport entre cette horizontalité et cette verticalité de l'homme qui est dessus, ce sur quoi il a les pieds, il le sait exactement.
C'est ça. C'est Anselm Kiefer. Et dans l'ouverture de l'ouvrage sur la figure du Wanderer, il s'est imposé comme une évidence de montrer une des plus fortes, peut-être, séries de Kiefer des années 70, qui s'appelle la série dite des symboles héroïques, où Kiefer, à mi-chemin entre la performance, la photographie et la peinture, a retraverser un certain nombre de paysages d'Allemagne en endossant le costume militaire de son père et à poser comme le Wanderer dans ces paysages, sauf à ceci près qu'il y fait un salut qui est le salut nazi. Et ça a évidemment fait scandale, mais ce salut nazi, bien sûr, est une provocation, mais n'est pas simplement une provocation. C'est la façon qu'a Kiefer, comme beaucoup de gens de sa génération, de se dire la seule solution, qu'est-ce qu'on va faire de l'histoire? Qu'est-ce que je vais faire, moi, qui suis né en Allemagne, de l'histoire? La seule manière, c'est de l'affronter dans un rapport cathartique où mettre les vêtements du père, c'est endosser l'histoire, assumer quelque chose en le rejoignant sur un mode parodique et en disant aussi, en faisant signe très clairement vers la tradition de Friedrich, et aussi en disant « je sais la réinterprétation qui en a été faite par le nazisme ». Il y a une aquarelle terrible dans laquelle il se met en scène sur un sol couvert de sang, c'est l'idéologie du Blut und Boden, l'idéologie du sol et du sang du nazisme qu'il figure ici. C'est une manière de dire qu'en effet, il n'y a pas de rapport au paysage qui puisse être un rapport innocent. L'histoire
c'est quelque
est
chose
là.
Qui est terrible dans le livre. À un moment, je crois que c'est vers la fin du livre, il y a des photographies, vous allez nous préciser de qui et comment elles ont été faites, d'endroits où il y avait les camps, et qui aujourd'hui sont des endroits d'une fertilité extraordinaire, où les fleurs sont là, la nature est luxuriante, c'est des paysages presque merveilleux, et pourtant, ces fleurs de sang sont là.
Il y a plusieurs photographies dans un chapitre que j'ai appelé « Modeste monument », où j'essaie de réfléchir sur ce que serait un paysage, comme j'essaie de jouer sur ces registres de traces plus ou moins visibles de l'histoire, il y a un moment où j'essaie de m'affronter à des œuvres dans lesquelles il n'y a aucune trace, et où pourtant, quelque chose est quand même là en dessous. Et ça m'a amené d'abord irrémédiablement vers la question de la photographie, je n'étais pas prédestiné à travailler sur la photographie, mais elle s'est imposée comme une grande évidence contemporaine aujourd'hui, et ça m'a amené à aborder la question du rapport du paysage avec la question de la Shoah, et ensuite d'autres génocides, mais qui sont liés à ce paradigme de la question de l'irreprésentabilité de la Shoah. Et j'ai rencontré notamment des photographies d'un homme qui s'appelle Roberto Frankenberg. Roberto Frankenberg, c'est un photographe de reportage, parfois de mode, de voyage, de presse, mais qui a fait une petite série qui s'appelle Traces, que j'ai vue dans un petit musée de la culture yiddish extraordinaire, qui sont des paysages tout à fait ordinaires. Il photographie un champ, il photographie une forêt, il photographie un lac, et puis là on voit une fleur, et puis là une plante grasse, et puis là un arbre qui semble plus fertile que les autres. Et j'ai pris conscience du fait que ces images produisaient chez nous une double lecture. On les regarde, c'est du paysage banal. On les regarde et puis à côté, on lit la légende. Et tout à coup, on voit marqué Treblinka, Sobibor, Auschwitz, Birkenau. Et là,
tout change.
J'ai tendance à dire qu'on se met à compter les brins d'herbe, véritablement. Ça change absolument tout. C'est un homme qui a fait ça pour aller sur les traces du passé de sa famille. Et il se trouve, mais je ne suis qu'un parmi des millions de gens, que c'est aussi le passé de ma propre famille, en particulier à Treblinka. Je peux pas ne pas me demander, à partir du moment où je vois marquer Treblinka, si cette plante grasse-là, c'est pas, d'une certaine manière, le sang et la chair de mon arrière-grand-père. Ça change tout.
C'est là que, comme vous le dites très justement, l'histoire nous saute à la gorge. On pourrait dire cela aussi des très belles photographies d'Alexis Cordès sur le Rwanda, cette fois-ci.
Oui, absolument extraordinaire. Ça a été pour moi une des grandes rencontres et artistique, et aussi d'ailleurs c'est devenu une grande rencontre amicale avec Alexis Cordès, qui fait une série sur de photographies sur le Rwanda qui s'appelle Absence, qui sont des photographies d'un paysage magnifique, une sorte de forêt qui ressemble à une forêt primaire avec quelque chose d'extraordinairement verdoyant, et au milieu de cette verdure une petite tache de rouge qui est une fleur qui vient de surgir. Et ça, c'est le Rwanda après le génocide, et c'est-à-dire que c'est un lieu en plus pour des raisons climatiques extraordinairement luxuriants, où le paysage a entièrement repris ses droits, et précisément c'est un paysage sans trace. C'est comme une sorte de moule négatif dans lequel l'empreinte humaine n'a plus aucune part. C'est tout à fait extraordinaire.
Alors c'est un drame du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, donc qui nous touche énormément. Et on s'aperçoit en participant, en lisant votre livre, quand je dis participer, c'est parce que il y a des moments où le corps participe à cette lecture, parce qu'on est vraiment emporté dans les représentations que vous avez choisies. Et on s'aperçoit qu'on ne peut plus voir le paysage sans savoir qu'il n'y a pas de fragment de ce paysage qui ne soit pas aujourd'hui marqué par l'homme. Et je pense à des tableaux que je trouvais, que j'avais déjà vus. Je trouvais ça assez beau. C'est très beau paysage avec des ciels tourmentés de Constable où je voyais une géologie un petit peu particulière et ça s'appelle Old Sarum. Mmh. Et il en a fait, c'est même devenu une obsession,
hein,
en nombre de gravures, de peintures,
absolument,
de ça qu'il en a fait. C'est sa montagne Sainte-Victoire, d'une certaine façon.
Oui, absolument.
Et donc, qu'est-ce que c'est que ce Old Sarum?
Absolument. Old Sarum, c'est un lieu que Constable a effectivement dessiné et peint à plusieurs reprises, qui est pas très loin de la ville de Salisbury. Et un de ses amis est archidiacre à Salisbury. Donc, Constable étant un homme extrêmement...
On est vers 1830, hein, pour nos auditeurs.
Oui, à peu près. Entre 1820 et 1830. Et Constable, c'est un homme extrêmement casanier, qui déteste voyager, qui ne traversera jamais le Channel pour aller ailleurs qu'en Angleterre. Et quand il se déplace, c'est vraiment parce qu'il a une raison, si possible, affective d'aller quelque part. Et il va se passionner pour ce lieu qui est pas très loin d'un autre lieu qui va beaucoup l'intéresser, qui est Stonehenge. Et il va le peindre à plusieurs reprises. Et quand on le regarde sans savoir ce que c'est, on se dit, bon... c'est beau, il y a une colline, il y a un berger, il y a des moutons. Bon, c'est beau, mais c'est pittoresque, finalement, c'est du paysage au sens tout à fait banal du terme. Et puis, il y a un ami de Constable, qui est aussi un ami de Turner, qui s'appelle Charles Robert Leslie, qui va devenir le biographe de Constable, qui écrit à propos de ces œuvres-là une phrase qui a été fondamentale pour moi. Une ville transformée en paysage, une ville transformée en paysage ne pouvait pas ne pas intéresser Constable. Ça a été vraiment une des clés du livre, qui reviendra à la fin du livre dans des images tout à fait différentes du ghetto de Varsovie en ruine. Une ville transformée en paysage. Parce qu'en fait, cette colline n'est pas une colline. C'est un tumulus. C'est-à-dire que c'est un endroit, laissez-moi travailler, je recouvre tout, où l'herbe a fait son travail, précisément, où le paysage a recouvert l'histoire. Mais sous la colline, il y a les ruines d'une cité antique, Old Sarum, qui est la ville qui a donné ses lois à l'Angleterre, là où se tenaient les premiers Parlement. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça fascine Constable, parce que précisément, il y a quelque chose qui est enfoui. Et j'ai comparé ses dessins d'ailleurs et ses peintures, et plus il retravaille la chose, dans les dessins, on voit qu'il y a des ruines. On distingue la différence entre nature et ruine. Mais plus il travaille la chose, plus il semble naturaliser la chose, enfouir littéralement les traces. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur. Le paysage a mangé l'histoire, d'une certaine manière, et il en devient le tombeau ou le cénotaphe, quelque chose
alors,
comme ça.
Alors, moi, j'étais jusque-là rassuré quand je voyais des peintures de paysage, et par exemple, la montagne Sainte-Victoire, là, j'étais bien sûr que c'était le rapport entre cette montagne magnifique et ce ciel, et les rapports, quelques constructions, et les briques de couleurs, comme ça, qui construisent la montagne, et je savais que c'était là, la nature. Et quand je vous lis... Je me dis, je ne suis plus tout à fait si sûr de moi.
C'est-à-dire que j'ai cherché dans un chapitre qui s'appelle « L'indifférence du monde » s'il existait, dans le fond, un paysage sans histoire. On pourrait appeler ça comme ça. Et je me suis souvenu de cette phrase admirable d'un très très grand artiste qui s'appelait Gilles Ayot, qui est également un grand écrivain, et qui dit à propos de la Sainte-Victoire qu'à force de peindre la Sainte-Victoire, ça n'est pas la montagne qui est usée par Cézanne, c'est la peinture de Cézanne qui finit par être érodée par la Sainte-Victoire. Donc une espèce d'effet de pure présence, ce que Clément Rosset appelle l'idiotie du réel. C'est là, ça ne dit rien, il n'y a rien à en dire, il n'y aurait qu'à le constater. Et puis j'ai découvert, grâce à un historien de l'art anglais qui s'appelle Paul Smith, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand Cézanne peint la Sainte-Victoire, il la peint en sachant une chose qu'on a nous oubliée, c'est que la Sainte-Victoire, c'est le site d'une bataille antique qui s'appelle la bataille des Cimbres. Et d'ailleurs, quand Cézanne vient à Paris, il va au Louvre et il va voir un grand tableau d'Alexandre Descamps régulièrement qui montre la bataille des Cimbres avec la Sainte-Victoire. Donc la Sainte-Victoire, c'est un champ de bataille. Et quand il la peint, en fait, il a une conscience aiguë de cette affaire. Il y a une phrase que j'aime citer, qui est très connue, mais qui traverse le livre, c'est la phrase de James Joyce qui dit « L'histoire est un cauchemar dont je tente de m'éveiller. » On tente, mais je doute fort qu'on parvienne à s'éveiller.
Le paradoxe du sublime, c'est qu'on feuillette ce cauchemar dans votre livre avec un plaisir fou. C'est-à-dire qu'il y a cauchemar et délices opposés de bout en bout.
Bien sûr. Je pense qu'on est absolument dans une forme de dualité, et précisément, je pense que si tous ces artistes se sont affrontés à ce type de relation, c'est aussi parce que, on pourrait dire les choses autrement, qu'est-ce que c'est qu'un paysage? Le paysage, c'est pas la nature. Pour moi, le paysage, c'est une chose qui n'existe que dans le regard de l'homme, et c'est la nature affectée par l'homme. C'est-à-dire que je pense que dans le paysage, ce que cherche l'homme, le Wanderer, précisément, c'est qu'il cherche sa propre trace. Il cherche où il est. Et dans le fond, c'est aussi pour ça qu'il laisse toujours, que soit il inscrit sa propre trace, la trace du pied, je suis passé par là, hein, ce qu'on va retrouver dans un certain nombre de pratiques de Land Art, soit il va essayer de détecter la petite chose qui nous ramène au fait que dans le sous-sol, il y a ce que j'appelle un regard stratigraphique qui est convoqué ici. Dans le sous-sol, il y a quelque chose de caché qui est quand même l'histoire.
Ça, c'est la peinture de Valenciennes, par exemple. Mais avant d'en arriver à Valenciennes, quand même, pardon de faire un aller-retour, mais vous faites des allers-retours sans cesse dans votre livre.
Oui,
donc
c'est le projet.
C'est le projet. Friedrich encore. Il y a quand même, chez Friedrich, ce souvenir d'une grande civilisation disparue qui est le christianisme, en fait, avec ses cathédrales effondrées, ses églises épuisées, ses tombes de héros abandonné, etc. Et il y a la fameuse visite de David d'Angers. Alors, je vous propose d'écouter ce que dit David d'Angers. Vous le citez dans votre livre, de voir ce que vous rajoutez. D'ailleurs, la façon dont vous le commentez, on en reparlera ensemble à l'instant. Écoutons David d'Angers.
Le soir, j'ai été voir le peintre Friedrich. C'est lui qui nous a ouvert la porte. Il est grand et mince, pâle. Des sourcils très épais, les yeux enfoncés. Il nous a introduit dans son atelier, un poêle, une petite table, un chevalet sur lequel il n'y avait rien, les murs peints en verdâtre, rien d'accroché dessus. Enfin, après l'en avoir prié, il nous a apporté plusieurs de ses ouvrages. Un délicieux tableau représentant un arbre sans feuilles, une chouette sur une branche, et la lune qui joue derrière les branches. Pas de terrain, cela est un effet qui fait rêver. Il nous a fait voir beaucoup de dessins admirables, points de figure. L'intérêt est occasionné par le site et par l'effet. Sa manière d'exécuter est d'une naïveté remarquable. Il est comme les grands génies qui disent des choses sublimes avec des expressions très simples. Les ouvrages de cet homme forcent à rêver. Ils sont tellement poétiques. Ils sentent admirablement bien la tragédie du paysage.
Vous ajoutez, Pierre Vatte, puisque nous sommes sur France Culture et que nous parlons avec vous de ce paysage qui habite votre livre, vous dites il reviendra deux fois sur cette idée comme pour mieux la marteler, la tragédie du paysage. Et je trouve que c'est une expression qui aurait pu être un titre pour votre livre, hein, parce que tout est derrière cela. Je pense au tableau de Grosch, à Friedrich, à Turner, enfin, à la tragédie du paysage. C'est qu'est-ce qui s'y est passé il y a peut-être si longtemps, mais qui... Si on regarde mieux, transparaît.
Cette expression a pendant très longtemps été le titre de cet ouvrage.
Ah oui.
Et cette expression, c'est la raison même pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est une chose qui me travaille depuis extrêmement longtemps. Et quand j'ai fait ma thèse, il y a fort longtemps, dans les années 90, il y a un chapitre de ma thèse qui s'appelle « La tragédie du paysage ». Ça m'a toujours fasciné. Friedrich est l'inventeur d'un genre nouveau, la tragédie du paysage.
C'est étonnant parce que Friedrich, que vous connaissez mieux que tout le monde, puisque vous êtes un spécialiste du romantisme, à un moment donné, son souvenir s'est évanoui. Il a fallu attendre 1904 ou 5 cette grande exposition sur l'histoire de l'art allemand pour le redécouvrir. Alors que c'est la germanité absolue, mais c'est surtout l'Europe.
D'ailleurs, lorsque David d'Angers, dans le passage que vous venez de faire entendre, va chez Friedrich, il va chez un homme qu'on est déjà en train d'oublier. Hein,
oui.
On lui a recommandé d'y aller. Friedrich a fait sensation. au début, vers 1808-1810, avec un grand tableau qui s'appelle le retable de Teichen, qui est un tableau incroyable, qui est un tableau d'hôtel, un retable au milieu duquel il met un paysage, une chose assez insensée et extraordinaire, qui est le cœur même de son projet. Et puis, ça fait un peu scandale, on parle de lui, mais c'est un homme très solitaire, et il est à Dresde, et on finit par l'oublier. Donc il y a, dans le fait que David d'Angers y aille, et dans le fait qu'il dise trois fois cette chose-là, une intuition tout à fait extraordinaire. La tragédie du paysage. Intuition qui a très souvent été discutée, d'ailleurs, comme une aberration, parce que dans la peinture de Friedrich, il se passe à peu près rien. Il y a même une contemporaine de Friedrich qui s'appelle Marie-Hélène von Kugelgen, qui est la femme d'un de ses amis peintres,
ah oui,
qui se tient devant un de ses plus beaux tableaux, qui est le moine mort de la mer.
Incroyable.
Et elle fait une description où elle dit, mais c'est beau, mais on s'ennuie. Il ne se passe rien, il n'y a même pas un petit oiseau qui viendrait nous soulager.
Moi je crois qu'elle n'a même pas vu qu'il y avait un moine.
Absolument, elle voit qu'elle ne voit rien et elle est totalement déstabilisée par cela. C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas cette affaire. Alors que, à la même époque, le grand écrivain allemand, Heinrich von Kleist, voit ce tableau et écrit ce texte sublime dans lequel il se décrit comme s'il était d'abord dans le tableau. Et à un moment, il bascule devant le tableau, et à un moment, il bascule dans le tableau. Il dit « Je deviens le moine ». Et il raconte ce qu'il vit à ce moment-là, et tout en disant « Encore faut-il y aller, encore faut-il en sortir. Si on n'en sort pas, on devient fou ». Et il a cette expression prodigieuse. Il dit que devant ce tableau, on est comme quelqu'un à qui on aurait coupé les paupières. On est comme quelqu'un à qui on aurait coupé les paupières.
Ça rappelle une histoire turnérienne, non? Parce que
absolument,
je crois me souvenir que dans Turner, il y a un personnage célèbre.
Voilà. Alors,
chez
Turner, évidemment, Turner et Friedrich n'entendront jamais parler l'un de l'autre, bien évidemment. Chez Turner, il y a un tableau qui s'appelle Régulus, qui est une scène portuaire à la manière de Claude Lorrain, comme il aimait à les faire, mais très éblouissante. Et Régulus, c'est un Romain, c'est un général romain qui a combattu Carthage, qui a combattu les Carthaginois. Et puis il a été vaincu par les Carthaginois qui lui ont demandé de revenir à Rome de leur part pour demander des conditions d'une forme de négociation. Il s'est engagé à y aller et en bon stoïcien, il a accepté la commande. On lui a dit, tu vas à Rome, tu demandes ce que nous voulons et si tu n'obtiens pas ce que nous voulons, tu reviendras chez nous et tu seras supplicié. Il va à Rome. Rome refuse, il retourne à Carthage et il est supplicié, il est accroché à un poteau face au soleil et on lui coupe les paupières.
C'est horrible.
Il devient aveugle. Et pendant très longtemps, on s'est demandé où était Régulus dans ce tableau de Turner où on ne voit à peu près rien. Et un jour, John Gage, grand spécialiste anglais de Turner, a eu cette intuition géniale. Il a dit, mais arrêtez de chercher Régulus dans le tableau. Il n'est pas dans le tableau, il est devant le tableau. Régulus, c'est nous. C'est-à-dire que le tableau, c'est un paysage ébloui que nous voyons du point de vue
de Régulus.
Et le point de vue de Régulus, c'est l'œil avec les paupières coupées.
Ce qui est magnifique dans le livre et dans cette anecdote, c'est plus qu'anecdote, dans cette histoire, c'est qu'on voit à quel point Turner cherche à chaque fois à réinventer et à revivre une situation du passé. Je l'ai senti en regardant dans votre livre le passage d'Hannibal dans les Alpes.
Voilà, alors ça c'est une histoire extraordinaire. C'est-à-dire cette espèce de... le paysage comme le lieu d'intrication absolue entre l'expérience individuelle et la grande histoire. Turner un jour est chez des amis dans le Suffolk, si ma mémoire est bonne, et tout à coup il est chez eux dans une belle demeure avec un grand parc et il se met à pleuvoir, il y a un orage extrêmement violent. Panique générale parce que qu'est-ce que fait Turner? Il prend du papier, il prend de quoi dessiner et il se précipite sous l'orage et il fait une esquisse magnifique sous l'orage, tout le monde est un petit peu effaré. Et puis il rentre avec son esquisse admirable et il la montre au fils de la famille et lui dit regardez-la bien parce que bientôt ça deviendra un tableau et ça s'appellera Hannibal franchissant les Alpes.
Extraordinaire.
Et extraordinaire, ouais, c'est-à-dire que c'est mon expérience à moi, Turner, dans le paysage, mon expérience au sens le plus fort du terme, ce que je vis et qui me modifie, qui donne un sujet, et ce sujet, je vais lui donner la dimension de l'histoire, je vais lui donner la dimension du mythe. C'est-à-dire que la peinture d'histoire se perpétue, mais à partir d'une expérience individuelle dans le paysage.
Mais alors là, il y a un basculement quand même qu'il faut que vous
Total.
Expliquiez, parce que pourquoi est-ce que... On a l'impression, là j'ai l'impression à l'instant en vous entendant, que le paysage, qui est un art mineur pendant de longues périodes, jusqu'au début du 19e siècle en tout cas, devient tout d'un coup un art majeur, comme si la peinture d'histoire devenait impossible. Pourquoi est-ce qu'elle devient impossible? Il y a eu trop de batailles? Où est-ce que ça s'arrête, la peinture d'histoire?
Il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, la peinture d'histoire, qui est supposée être le grand genre, est en fait un genre qui est en crise depuis longtemps. Elle est probablement déjà en crise à la fin du XVIIe siècle et elle l'est totalement au XVIIIe siècle. Il y a une forme d'essoufflement. Il y a une forme d'essoufflement parce que quand vous présentez une grande peinture d'histoire avec un sujet mythologique, je sais pas, Corésius et Calliore, à un spectateur des années 1760, 70 ou 80, il y a un grand problème. C'est qu'en fait, ce spectateur, contrairement à l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui, ne sait pas plus que nous.
Ah oui, parce qu'ils sont
Corésius et Calliore.
Oh, et la peinture, je suis rassuré.
La peinture d'histoire, ça fonctionne. Je choisis cet exemple à dessin. Ça fonctionne. La peinture d'histoire, c'est pas du tout une peinture qui nous raconte une histoire que nous ne connaissons pas. Une peinture d'histoire, ça ne peut fonctionner que si le peintre et le spectateur ont la même culture. C'est donc réservé à une élite formé aux humanités classiques, extrêmement savant.
J'ai des contre-exemples. Si on peint, je sais pas, la bataille d'Eylau, par exemple.
Oui. Alors, donc la peinture d'histoire dans la tradition. Donc, la première tentative qu'a eu la peinture d'histoire de se sauver dans la crise, en particulier à partir de la Révolution et sous l'époque napoléonienne, à travers des gens comme, par exemple, Gros, qui est le grand peintre, il invente quelque chose de nouveau. C'est la peinture d'histoire à sujet moderne, c'est-à-dire contemporain. Là, il n'y a plus de problème. La mort de Marat, la bataille d'Eylau, 100% des gens savent. Ça, c'est une première tentative. Le deuxième élément de réponse, là, on parle d'Angleterre et on parle d'Allemagne. Nous sommes dans des pays, à majorité protestante ou anglicane, c'est-à-dire dans des pays où la peinture d'histoire à sujet biblique, religieux, le plus haut de la peinture d'histoire, ne sont pas possibles pour des raisons d'interdits religieux. On ne représente pas de scènes bibliques dans le protestantisme, pas plus qu'on ne représente dans l'anglicanisme. Donc, cette peinture qui devrait être forte, elle est faible. Elle est faible. En plus, en Grande-Bretagne comme en Allemagne, on est dans des états, plus ou moins nations, beaucoup moins centralisés qu'en France. Il y a beaucoup moins de mécénat royal, beaucoup moins de mécénat aristocratique. Ce qui fait qu'en fait, la peinture, elle est beaucoup moins liée à ce qu'on appelle les artistes de cour, à ce type de demande. Les peintres sont beaucoup plus soumis à ce qui va devenir également le modèle en France après, ce qu'on appelle un artiste d'exposition, aux attentes du public, d'un grand public, d'un public plus démocratique, qui n'a pas du tout envie d'avoir chez lui de la peinture d'histoire. Pour avoir chez vous une peinture d'histoire, il faut avoir une grande demeure, un château, etc. Le public, il a envie d'autre chose.
Alors, il y a un autre tableau dont vous parlez qui montre une mutation, un moment où ça se transforme un peu. C'est un tableau de Delacroix très connu, Les massacres de Sceaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, c'est du côté du vaincu. Enfin, il se passe quelque chose d'étrange. C'est comme si on pouvait plus, comme si ce qui est représenté ne pouvait plus habiter l'endroit où il se trouve.
Absolument. C'est les scènes des massacres de Sceaux que Delacroix montre à Paris au salon en 1824, qui vont faire une sorte de succès de scandale, on va dire ça comme ça, à la fois un grand succès, le tableau va être acheté, il va recevoir une médaille, mais la critique va se diviser autour de ce tableau. Ce tableau, il l'a peint à partir de ce qu'on appelait à l'époque le récit des gazettes, qui est ce grand mouvement de libération du peuple grec, du joug ottoman, comme on disait autrefois, le grand mouvement philhellène qui va envahir l'Europe et d'ailleurs l'Occident jusqu'à l'Amérique.
Et attirer son grand personnage qui est Byron.
Qui est Lord Byron, qui est une des grandes sources de Delacroix. Alors, Byron qui va mourir à Missolonghi. Et Delacroix va peindre un autre tableau magnifique qui s'appelle La Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi.
Au musée de Bordeaux, allez le voir.
Tableau extraordinaire et totalement construit d'ailleurs vraiment de manière stratifiée, c'est-à-dire que cette Grèce allégorique est posée sur des couches successives du paysage dans lesquelles on voit émerger des morceaux de cadavres, c'est toujours la même histoire. Alors les scènes des massacres de Sceaux, quand Delacroix l'expose au salon, il y a quelqu'un d'autre qui expose au salon à ce moment-là, qui s'appelle John Constable. Enfin, en tout cas, lui ne vient pas à Paris, mais ces tableaux, dont la fameuse charrette de foin, sont présents à Paris, d'abord dans une sorte de galerie chez Lafitte, où Delacroix va les voir et écrit son admiration dans son journal, ce monsieur Constable me fait le plus grand bien, etc. Et puis ensuite, ils vont être exposés presque côte à côte. Il y a une légende autour de cette contiguïté qui est que Delacroix aurait retravaillé ces scènes de massacre de Sceaux en ayant vu la charrette de foin. C'est probablement un mythe, mais ça dit quelque chose. de ce tableau. Ça dit quelque chose. Parce que les scènes des massacres de Sio, c'est une peinture d'histoire et une peinture d'histoire contemporaine. Mais si on regarde bien le tableau, il y a un paysage, qui est le paysage de l'île, à l'arrière-plan. Et devant, ce qu'on appelle une composition en frise, ces personnages, sous le joug turc, qui sont vraiment au bord du tableau. Et qui sont comme expulsés, littéralement. Il y a une sorte de disjonction entre les personnages et le paysage. Il y a vraiment une disjonction. Et là, c'est une sorte de, c'est une tragédie humaine et une tragédie politique. Il y a une forme de tension. C'est peut-être ça qui fait que l'on pense qu'il l'a retravaillé. C'est-à-dire que le paysage a une, dans cette peinture d'histoire tragique et humaine, a une importance considérable et une forme d'autonomie.
C'est-à-dire que la population battue, perdante, est exilée du tableau.
C'est ça. Il y a vraiment une forme d'exil et de disjonction entre la terre et les hommes.
Alors, on va revenir sur cette question des strates parce qu'elle est bien pire à certains moments du livre. Mmh. Avant, parce que ça, un moment peut-être, on peut pas dire que ce soit joyeux parce qu'il s'agit de quelque chose de tragique, mais quand même l'anecdote est formidable. Il y a un chapitre qui s'appelle Staviator. Mmh. Arrête-toi, voyageur. Mmh. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient cette expression, pourquoi vous l'avez relevée?
C'est Voltaire qui raconte une scène sur un champ de bataille où un homme qui s'appelle Franz von Mercy, d'origine germanique, est battu par le grand Condé. Et il meurt sur le champ de bataille. Et comme il se doit, il va être enterré avec les honneurs sur le champ de bataille. Et le grand Condé rédige son épitaphe. Et l'épitaphe, c'est « Sta viator eroem calcas ». Arrête-toi, voyageur. C'est un héros que tu foules aux pieds. Ça, c'est absolument magnifique parce que devient le champ de bataille après la bataille? C'est aussi une des grandes affaires qu'on le voit quand Turner peint Waterloo en allant à Waterloo après. On le voit au XXe siècle dans les lieux des champs de bataille, par exemple dans le nord de la France. Là encore, l'herbe recouvre tout. Et donc l'herbe recouvre tout, mais il y a cette stèle où il est dit « Arrête-toi, voyageur, c'est un héros que tu foules aux pieds ». C'est-à-dire, c'est cette idée que marcher dans le paysage, c'est marcher sur l'histoire. C'est ce que dit déjà Cicéron, il dit que marcher dans Rome, c'est marcher sur l'histoire. Et Montaigne raconte que l'on dit que marcher dans l'ancienne, quand on marchait dans l'ancienne Athènes, en fait, le sol de l'ancienne Athènes était constitué par le sommet des anciennes maisons. On marche sur des strates. Il y a une anecdote que raconte un des biographes de Nicolas Poussin, où un homme va voir Nicolas Poussin, et ils se promènent dans Rome ensemble, et cet homme lui dit, maître, donnez-moi un peu de cette Rome que vous peignez, donnez-moi un peu de cette histoire que vous peignez, et Poussin se penche, et il ramasse de la terre, et il lui donne cette terre en lui disant, voilà, je vous donne la terre, parce que cette terre-là, c'est une terre qui est faite de débris, c'est la meilleure peinture d'histoire possible, c'est simplement la terre.
Vous parlez de Poussin. Une partie de votre travail pourrait être décrite par le Et in Arcadia Ego, ce moment où les bergers découvrent un tombeau dans la nature. C'est un des tableaux les plus célèbres de Poussin. Et...
Absolument. C'est cette chose fondamentale. C'est exactement l'idée du chasseur de traces. C'est-à-dire que le Et in Arcadia Ego, ce sont donc des bergers qui découvrent une sorte de monument, probablement un cénotaphe, dans un paysage arcadien, c'est-à-dire dans une sorte de paradis mythologique, et que découvrent-ils? Que comprennent-ils quand ils font leur travail d'interprétation? Et in Arcadia ego, en Arcadie aussi, la mort réside aussi en Arcadie. C'est-à-dire que finalement, l'inscription leur rappelle que même au paradis, il y a la mort en dessous.
Et donc cette mort en dessous, elle est là dans tout le livre, mais pas forcément la mort tragique, parce qu'elle l'est souvent, mais parfois c'est simplement le temps de l'histoire, avec une admiration forte pour cette histoire, se dire, voilà, les Romains étaient là, les Grecs étaient là, chez Valenciennes, il n'y a pas de tragédie, c'est simplement la beauté du temps historique.
Et le sentiment d'une forme de continuité. Dans le fond, Valenciennes est quelqu'un qui prône, qui a écrit des traités de peinture et des récits de voyage, et il dit que pour être artiste, pour être peintre de paysage, il faut aller à pied. Il dit même qu'il faut surtout pas aller en calèche fermée, parce que sinon, si on ne descend pas, finalement le paysage il est cadré par la fenêtre et on ne voit rien, on ne comprend rien. Ce qu'il faut, c'est éventuellement à cheval, mais l'idéal, c'est à pied. C'est-à-dire que le paysage, c'est d'abord une chose qui doit s'éprouver corporellement dans le déplacement. Et qu'est-ce qu'on éprouve corporellement dans le déplacement ? C'est cette sensation qu'on marche là où d'autres ont marché, on marche sur ce que d'autres ont déjà façonné avant soi. Donc il y a vraiment chez lui, effectivement, là je dirais une conscience heureuse de l'histoire, c'est-à-dire la sensation d'une forme de continuité.
Alors l'opposition, c'est celui qui pressent que le paysage va être tragique. Mmh. Et on a cela à un moment donné dans une série de gravures et une peinture extraordinaire de Georges Grosch, représentée dans le paysage. On est en 40, la peinture est de 42, mais les gravures sont antérieures, me semble-t-il.
Oui, c'est ça, c'est une série de gravures dans lesquelles il se représente lui-même comme dans la figure du Wanderer, en l'occurrence. Et il est dans une nature où là, la nature est traitée de telle manière à témoigner d'une forme d'hostilité. Elle est hostile à la fois dans la nature qui l'entoure et qui vient comme une sorte de monstre agressif. Il va se passer quelque chose.
Oui, ça va mal tourner.
Ça va mal finir. Ouais. Ça va mal finir et il y a tout un travail sur le sol. Le sol, c'est de la boue. Alors on pourrait dire que la boue, c'est ce dans quoi on laisse son empreinte, mais en fait là, l'empreinte n'est pas l'empreinte heureuse de l'homme qui laisse sa trace dans le paysage. L'empreinte, c'est la boue qui est en train de vous saisir et qui va vous entraîner.
Alors ça, c'est des périodes extraordinaires. Il y a aussi quelque chose qui est alors bien pire et qui correspond à cette stratification, parce que cette stratification heureuse de Valenciennes, donc on est quoi, vers 1840
près. On est dans le 20 premières années, enfin tournant 18e, 20 premières années du 19e siècle.
Et donc 120 ans plus tard, il y a quelque chose de terrible qui est une stratification et qui est Musitsch. Dont vous parlez beaucoup, parce que évidemment la tragédie épouvantable du milieu du XXe siècle apparaît fortement dans votre livre.
Alors Musitsch, c'était très important pour moi, aussi pour des raisons personnelles, parce que j'ai eu la chance de le connaître, et que c'était un homme éblouissant, et qu'il avait une manière de parler de ça, et il en parlait tout le temps, qui était extraordinaire parce qu'il était capable aussi d'en parler de manière joyeuse. Et il y a un texte de lui que je cite qui est incroyable, où quand il est dans le camp, dans ce camp où il a fait des dessins sur place qu'il a réussi à cacher et ensuite à faire sortir, où le motif principal ce sont des tas de cadavres, il raconte ça, il dit cette chose que seul un homme qui a été là a le droit de dire. Il parle aussi, il dit qu'il dessine et il parle de la beauté de ce qu'il a vu. C'est comme la tragédie du paysage. Ce sont des choses. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et il faut essayer de comprendre. Musitsch est peintre avant d'être déporté. Musitsch est peintre pendant qu'il est déporté. Musitsch est peintre après avoir été déporté. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette façon qu'il a d'aborder la chose en peintre et il en va de sa survie. Mais si on remet les choses dans leur continuité, les paysages autour de Sienne, les paysages d'Ombrie, les paysages de sa propre région qu'il peint avant la guerre, les dessins de tas de cadavres qu'il peint pendant la guerre, et puis beaucoup plus tard, cette série incroyable qu'il commence, il faut 30 ans de digestion presque pour arriver à faire cette série qui s'appelle « Nous ne sommes pas les derniers », où tout à coup, les cadavres vont ressurgir dans le paysage comme des sortes de plantes grasses, dangereuses et en même temps vivantes, totalement ambivalentes. Il y a un effet de continuité. Tout est déjà là avant. Les petits paysages de l'Ombrie, ils sont complètement stratifiés, avant-guerre, comme dans une forme de pressentiment du rapport paysage et histoire. Après la guerre, ça continue, et il faut bien le dire, c'est, même si le terme est terrible, c'est revivifié par son expérience de la déportation. Il a été capable d'en faire quelque chose. Donc là, pour moi, c'était effectivement un moment fondamental.
Écoutons un extrait d'un texte que vous avez de votre livre, donc sur quelque chose d'un petit peu moins grave, mais dans lequel on sent comment l'histoire et le paysage se rencontrent. Le champ de bataille, c'est la rencontre de l'histoire et du paysage.
Le champ de bataille, c'est la rencontre de l'histoire et du paysage. Une affaire de domination, où des hommes tentent de prendre le contrôle d'un paysage. On parle alors de territoire. Paysage et guerre ont donc parti liés terriblement. Des siècles de peintures de bataille témoignent de ce rapport univoque, où le paysage soumis, quadrillé, découpé est le lieu de la manifestation de la force et du pouvoir des hommes. L'époque contemporaine pourtant, dès l'ère napoléonienne, invente un art autre, un art désenchanté, dans lequel peu à peu le rapport de domination s'inverse, voyant le paysage à travers les désastres de la guerre reconquérir ses droits sur une histoire défaillante. Ce sont quelques-unes des modalités de ce qu'il faut appeler une relève, au sens où le paysage vient littéralement se substituer à une peinture d'histoire exsangue afin de dire de quelle tragédie la guerre est le lieu qu'il s'agit d'énoncer ici.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Et je suis avec Pierre Watt qui a édité ce livre, qui a écrit ce livre exceptionnel, Paysage entre nature et histoire, qui aurait pu s'appeler La tragédie du paysage. Et nous venons de parler de Musitsch et de ses œuvres qui ont ce titre terrible, Nous ne sommes pas les derniers, qui pourrait être un nom d'un caprice de Goya. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Watt?
Oui, il y a un effet de continuité. Nous ne sommes pas les derniers, c'est un titre magnifique parce que c'est un titre ambivalent. Nous ne sommes pas les derniers.
Parce que la vie va continuer quand même.
Ils nous ont pas eu.
Oui.
Nous ne sommes pas les derniers. À qui ça arrive?
Oui.
Le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde. Goya, je les mets en relation. Parce que j'étais très obsédé par cette forme, quelque chose d'un peu anthropologique comme ça dans l'ouvrage, où on voit des formes récurrentes qui traversent les siècles. Ces fameux tas de cadavres, on les trouve dans les désastres de la guerre de Goya. Il y a une des planches qui s'appelle « Enterrer et se taire ».« Enterrer et se taire ». Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est le tumulus de Constable. C'est une petite colline, sauf que là, elle est dessinée de manière presque radiographique. C'est-à-dire qu'on voit de quoi elle est faite. La colline n'est faite que de corps entassés.
Ce qu'on a vu au Cambodge aussi, ce que l'histoire nous présente souvent.
C'est ce que j'appelle moi le devenir paysage des corps. C'est la grande affaire de la guerre.
Alors ce qui est incroyable, c'est que il y a cette tragédie du paysage, mais il y a aussi, pendant la guerre, cet artiste immense qui travaille comme on pourrait dire indifférent, absolument indifférent à la guerre, et peut-être pas du tout, et auquel le grand héros de 1914, Clémenceau, de la guerre de 14-18, va rendre hommage, mais immédiatement. Je n'arrive pas à comprendre.
L'Énaphéa, c'est Monet, l'Énaphéa. Monet n'a jamais fait la guerre. Monet n'a pas fait la guerre de 70, il est parti à Londres, et je pense qu'il en concevait d'ailleurs une forme de... C'est compliqué de faire la guerre et c'est compliqué de ne pas avoir fait la guerre quand on a des amis comme Frédéric Basile qui se font tuer sur le champ de bataille. Et Monet, dont on a tendance à, de manière générale, ce qu'on appelle trop rapidement l'impressionnisme, on a tendance à y voir toujours une sorte de versant, le paysage heureux, le champ de coquelicots. Et en fait, moi, tout mon livre, c'est pour essayer de montrer le revers dans le fond du champ de coquelicots. Et je pense que Monet est quelqu'un qui est, il suffit de lire d'ailleurs sa correspondance, qui est celle d'un homme profondément angoissé en permanence, on voit à quel point il a pris un sens tragique. Alors que fait Monet? Le 12 novembre 1918, il écrit une lettre à son vieil ami, critique d'art, soutien, complice, presque jumeau, Clémenceau. Et il lui dit qu'il veut offrir à la France, pour célébrer la victoire, 4 grands panneaux décoratifs d'Énaphéa. C'est le point de départ. C'est le point de départ de ce qu'on voit aujourd'hui à l'Orangerie, qui est le grand cycle décoratif d'Énaphéa, qui va mettre plus d'une quinzaine d'années à aboutir. C'est son geste. C'est-à-dire que pour célébrer la victoire, cet homme qui n'a pas combattu, il va peindre et il donne cela. Et que fait Clémenceau, qui avait certainement rien d'autre à faire le 12 novembre 1918, il accourt chez Monet. Il accourt chez Monet et il accepte cette chose au nom de la France. Et ensuite, il va œuvrer pour que la chose demeure. Alors, quel rapport? Oui. Quel rapport entre ce grand paysage d'eau et la plus gigantesque boucherie que l'humanité ait jamais vécue à ce moment-là? C'est-à-dire que la guerre de 14, c'est l'aboutissement de ce mouvement qui commence avec Napoléon, c'est-à-dire la guerre de masse. Hein, c'est Chateaubriand qui a cette phrase géniale qui dit que Napoléon a fini par nous lasser de la guerre à force de l'exagérer. Et alors là, on est dans l'exagération de l'exagération, et Monet répond par cela. Et il écrit un texte dans lequel il parle de l'effet que doivent produire les nymphéas, un asile dans lequel on vient apaiser ses nerfs. Et quand on voit le dispositif, quand on voit ce qu'il cherche à faire, moi j'ai le sentiment que dans le fond, c'est une sorte d'anti-peinture de guerre. Comment est-ce que c'est composé? C'est composé presque comme ce qu'on appelle un panorama. Au XIXe siècle, c'est le siècle des panoramas.
Ah oui.
Ce sont des batailles,
les panoramas.
Alors, voilà, les panoramas, au XIXe siècle, globalement, ce sont des rotondes qu'on construit, dans lesquelles on met des peintures à 360 degrés, avec différents thèmes, des villes, des voyages et des panoramas de guerre. La grande chose, panorama de Sébastopol, c'est le panorama de guerre. Et on y fait rentrer un spectateur qui est au milieu et qui peut, c'est la première réalité virtuelle, jouer à faire la guerre tout en étant le héros. Il est au centre et en plus, il ne lui arrivera rigoureusement rien.
Et la lumière change.
C'est ce que Balzac appelle la passion dans le Père Goriot du peuple pour les spectacles en rama. Hein, quand le Père Goriot meurt, et un des personnages de la pension Vauquer dit « Quel beau mortorama ». Et au début, Monet, quand il cherche un lieu, il veut faire construire dans les jardins de l'hôtel de Biron, actuel musée Rodin, une rotonde pour y mettre son affaire. Et puis finalement, il y renonce. Et quand il cherche, il a une lettre géniale où il dit « Mais on pourrait peut-être le mettre sur le site d'un ancien cirque ou des anciens abattoirs de Paris ».
Donc vous imaginez l'image. Le rapport à la mort aussi.
Cirque, abattoir, panorama. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'il y propose? Il reprend le modèle du panorama guerrier, le modèle de cette espèce de distance comme ça spectaculaire et finalement cynique. Panorama, c'est le désir de, ça veut dire tout voir, panorama. Et il le retourne comme un gant et il nous propose quelque chose de complètement aveuglant où on ne voit rien d'une certaine manière, si ce n'est ses reflets d'eau, et qui est exactement l'inverse. C'est le contraire de l'idéologie guerrière. Et surtout, c'est une philosophie de l'histoire. C'est le contraire de la peinture d'histoire à l'ancienne qui tente de nous faire croire que dans l'histoire tragique, guerrière, les hommes prennent des décisions, les troupes agissent et le résultat est là. C'est une chose qui est complètement révoquée par le XIXe siècle. Il faut lire Guerre et paix, les considérations de Tolstoï sur l'histoire pour montrer que l'histoire, c'est comme un étang, c'est comme un fleuve, c'est comme une mer. Ça arrive et les hommes vont feindre d'organiser cette chose qui se passe devant eux.
Merci Pierre Watt pour ce livre, cette philosophie de l'histoire, cette signification de la beauté que votre livre « Paysage entre nature et histoire » nous apporte. Merci.
Un grand merci à vous.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu l'historien Pierre Watt pour son livre extraordinaire qui vient de recevoir le prix Pierre Dex, Pérégrination, paysage entre nature et histoire aux éditions Azan. C'était une émission préparée en collaboration avec Seam Boutata, lecture des textes Claude Aufort, prise de son Alain Joubert, réalisation Franck Lilin. Merci Franck. Bon après-midi sur France Culture.